Nous sommes en ligne à présent avec Maître William Goldnadel, qui est l'avocat de la famille de Jérémy Cohen. Bonsoir, Maître Goldnadel, merci d'être notre invité ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir. Et avec Shana Bismuth, qui est la présidente de l'association Palmarère, qui a représenté un peu la famille depuis le début de cette histoire, puisque l'action de la famille s'est fédérée autour de son association.
Bonsoir Bernard,
bonsoir Shana. Vous avez, Maître Goldnadel, publié un tweet cet après-midi pour expliquer votre arrivée dans le dossier et vous l'avez présenté de la manière suivante. J'ai reçu la famille de Jérémy Cohen et conversé avec son frère David, qui demeure en Israël. Sans sa pugnacité, la vérité aurait été cachée. Des racailles qui s'en prennent à un juif handicapé qui finira écrasé par un tramway. Ma mission, deux points, poursuivre le dysfonctionnement policier. Qu'est-ce que vous entendez par dysfonctionnement policier et pourquoi ça résume votre action dans l'affaire Jérémy Cohen?
Ça la résume pour l'instant. Je ne dis pas que ça se limitera au dysfonctionnement policier. Ce que je veux vous dire simplement, quand je parle de la pugnacité, je parle de la pugnacité de la famille en son entier, pas seulement le frère en Israël.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Donc,
bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez raison.
Oui, non, mais je pense que sans l'un des scandales terribles de ce dossier, c'est le fait que la famille, pendant de nombreuses semaines, s'est trouvée seule et a été obligée de diligenter toute seule une manière d'enquête. Elle a bénéficié, si vous voulez, de prises de vue qui ont été prises par des particuliers qui les lui ont adressées. Mais pendant des semaines, la police, et notamment la police de Bobigny, est restée, si j'ose dire, l'arme au pied et considérait qu'il s'agissait en vérité d'un banal accident de la RATP. Et j'observe qu'il a fallu des semaines pour que le parquet se fende d'un communiqué hier pour qu'ils expliquent que finalement ils avaient décidé d'unifier deux procédures qui étaient restées séparées pendant de longues semaines. La première procédure, donc cette affaire de RATP, cet accident de RATP, et d'autre part, les éléments qui commençaient à être adressés et qui montraient que le malheureux avait été victime d'une bande de racailles. Il me semble que c'était à la portée de n'importe quelle brigade policière ou du parquet de faire le lien immédiat entre une bande de voyous qui s'en prennent à un malheureux pour des raisons diverses ou variées, que l'enquête peut-être déterminera, et le fait qu'il se jette dans son désespoir sur le tramway. Je pense que c'était à la portée de n'importe qui.
Ou plus exactement, sonner de coups, désespéré, ouais. Puisque fuyant, c'est un garçon qui est fragile, qui a des capacités cognitives sûr. Qui sont moins importantes que celles des jeunes bien de son sûr. Âge. Il voit rien, il voit pas passer le tramway, et malheureusement, le tramway l'écrase.
Mais c'est terrible, parce que si vous voulez, j'ignore, vous savez, moi, j'ai un point commun avec cette malheureuse famille et ça a dicté ma conduite depuis toujours en tant qu'avocat dans des affaires autour de la communauté juive. C'est que lorsque je n'ai pas la preuve de l'antisémitisme, je ne l'affirme pas.
Alors voilà, c'est pour ça, voilà. C'est l'un des points, c'est l'un des points clés que je voudrais vous demander. Vous précisez dans votre tweet, donc c'est un peu votre prise en fonction, vous annoncez votre prise en fonction, vous dites un juif handicapé. Est-ce que vous croyez que c'est des mobiles du crime? Les deux, et l'un et l'autre,
non? Mais très, très sincèrement, je n'en sais rien. Je suis incapable de vous dire, au moment où je vous parle, est-ce que le pauvre môme qui ne ressemblait peut-être pas à tous les mômes, a été en but tout simplement à la moquerie d'une horde méchante, et que ça suffit pour déchaîner justement cette méchanceté avec le drame que l'on sait, ou est-ce que, également, ou à côté, le fait qu'il ait été porteur d'une kippa, ou qu'il soit reconnaissable en tant que juif, je ne sais pas, a motivé ça. Au moment où je vous parle, comme je n'en sais rien, Je le pose comme hypothèse, mais comme seulement une hypothèse.
D'accord.
Vous savez, moi, dans les affaires Halimi, j'ai attendu mon temps. Dans l'affaire Knoll, j'ai attendu aussi que le parquet se détermine. Je ne suis pas dans la jubilation de constater que c'est un énième crime antisémite sur base de racaille. Et il est possible, et il est possible que le malheureux Jérémy Cohen soit la énième victime française martyrisée. Tout est possible.
Shana, en fait, c'est vous qui avez joint Radio Shalom, c'était la semaine dernière, en disant, voilà, ils cherchent un moyen absolument de s'exprimer, ils ont besoin de parler, ils ont l'impression qu'on les promène, en fait. Même leur avocat, ils ont l'impression que ça va pas, ils se trouvent pas écoutés, ils sont déjà très... Je vous parle sous votre contrôle, hein, si vous me dites que c'est un peu différent.
Non, allez-y.
Voilà, et même la première fois, on a essayé de les endormir en leur disant que c'était un accident, il a fallu qu'ils enquêtent eux-mêmes, comme vient de raconter très très bien Maître William Golden.
C'est vraiment terrible.
Donc, et ils ont dit, voilà, est-ce qu'ils veulent parler à la radio? Donc, ils sont venus à la radio. Mais je voudrais savoir, avant ça, avant leur intervention, qui a après tout déclenché, on va parler dans un instant de la rencontre avec Zemmour, la rencontre avec les médias, etc. Mmh. Mais Shana, pourquoi ils décident d'enquêter? Si moi j'apprends que mon gosse est mort, à Dieu ne plaise, d'ailleurs je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais à Dieu ne plaise, moi je pense que je vais croire la police, je vais dire bon bah je sais pas. Qu'est-ce qui les a poussés à se dire non, on va aller chercher la vérité parce qu'on nous ment?
Alors, c'est l'instinct, il y a eu un ressenti de la famille par rapport au laxisme de la police, en fait. Quand ils sont partis voir la police, en leur disant, voilà, pour nous, notre frère n'est pas décédé comme ça, on voit les choses différentes, aidez-nous, accompagnez-nous. Et il n'y a pas eu ce retour. Donc, tout de suite, ils ont décidé de mener leur propre enquête. Je reprends un petit peu les termes de la famille. Ils ont décidé et ils ont fait un travail extraordinaire. Si aujourd'hui ce travail n'avait pas été remis à la police, au palais de justice, à qui vous voulez, ça serait simplement un simple accident.
Mais vous savez que c'est ça qui fait peur. Hein. Vous savez que c'est... Enfin, évidemment, la mort fait peur. C'est la mort d'un enfant, d'un jeune et de quelqu'un fragile encore plus, fait peur à tout le monde. Mais ce qui fait peur, c'est qu'on se dit justement un peu comme je le présentais maladroitement. On se dit, mais ça peut arriver à n'importe qui. On nous dit, ben non, il y a eu un accident et personne ne saura jamais la vérité.
Tout simplement. C'est aussi clair que ça. Ouais. Maintenant, il faut laisser les autorités, la juge qui a été saisie, maître, vous avez raison, qui pose des mots, il y a une enquête qui est en train d'être faite, mais je pense que ça va, j'espère, pour cette famille, c'est quand même une grande catastrophe pour eux. Et Jérémy est l'enfant de tout le monde.
Bah, évidemment. Shana, qui a eu l'idée? Et même d'ailleurs, est-ce que vous savez, puisque vous êtes intervenu hier soir sur notre antenne en disant, Bernard, voilà, je veux dire à l'antenne, on est très très en colère que la vidéo ait été publiée. D'abord déjà parce que ça respecte pas la victime, on fait pas ça nous dans nos traditions, on publie pas les photos des morts. Et deuxièmement, c'est un élément du dossier, on va croire qu'on sort les éléments du dossier. Est-ce que vous savez qui a sorti cette vidéo? Et est-ce que vous confirmez que c'est pas la famille?
Alors, je confirme que ce n'est pas la famille pour la bonne et claire raison que, à partir du moment où on s'est tous réunis avec la famille, WhatsApp ou autre, on en a parlé, on a posé la question à tout le monde. Tout le monde a posé la question. Et ce n'est pas la famille, je vous le confirme. D'ailleurs, la famille a décidé de porter plainte.
Maître Golnadel, aujourd'hui, si je regarde donc les objectifs de la famille quand Shana nous téléphone mardi dernier, c'est... Et là encore, je parle à tous les deux, vous me corrigez si je me trompe. Mais j'ai l'impression, les deux objectifs sont les suivants. Faire en sorte qu'on en parle, que cette histoire soit connue. Parce que le silence semble faire du mal au dossier. Et donc ils disent, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà comment on va dire ça. Deuxièmement, faire en sorte que les deux enquêtes soient liées. C'est-à-dire, comme a dit Maître Golnadel, l'agression d'un côté et l'accident. Or, Maître Golnadel, le procureur hier a dit... Ça y est, on va le faire et on va qualifier en disant qu'il y a eu mort d'homme sans intention de la donner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette affaire est connue. Est-ce que vous avez l'impression que le dossier est tout à fait différent? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez gagné? Quel est votre sentiment, vous, aujourd'hui, en tant que conseil de la famille, Maître Golnadel?
Écoutez, je ne fais pas de procès d'intention aujourd'hui aux autorités judiciaires. Je constate simplement la lenteur à avoir opéré. Je constate que sans la famille, on en serait toujours dans une occultation invraisemblable. Et je ne sais d'ailleurs pas expliquer cette occultation. Est-ce que c'est cette éternelle frilosité lorsqu'il s'agit de l'antisémitisme nouveau, ou bien est-ce que c'est tout simplement la médiocrité d'une partie de l'appareil policier, ou les deux? Je suis incapable de vous dire. Hein. Une chose est certaine, la justice maintenant a décidé, mieux vaut tard que jamais, de s'en saisir. Je n'ai pas lieu pour l'instant de mettre en cause la partialité du parquet de Bobigny. Le procureur Battet va faire son travail. Moi, après, le drame, si vous voulez, c'est que j'ai été échaudé dans le passé par des dysfonctionnements judiciaires que tout le monde connaît, de l'affaire Halimi à d'autres encore. Donc, malheureusement, je suis un peu échaudé, mais a priori, je ne suis pas de ceux qui font des procès d'intention. J'attends avec une confiance raisonnable et raisonnée.
Voilà, je vais vous citer ce qu'a dit ce matin un journaliste très connu qui s'appelle Pascal Praud. Il a dit, il y a tout dans cette affaire. Le pas de vague, la volonté de ne pas faire de vague, le pas de vague, le silence des médias, la police qui a peur et on la comprend, les politiques qui n'interviennent pas, cela révèle la société française, et lui ajoute, c'est comme vous dites, c'est pas le sujet de l'avocat, c'est la France 5 ans après Macron. Vous trouvez aussi qu'il y a tout dans cette affaire ?
Je rejoins Pascal Praud sur beaucoup de sujets, là, sauf que je constate que lorsque les politiques ont été avertis, la plupart ont dit l'émotion qu'ils éprouvaient. Je pense notamment à Éric Zemmour, je pense à Marine Le Pen, je pense à Valérie Pécresse. Je veux dire par là qu'on ne peut pas faire le procès. Au contraire, j'ai été un peu étonné, à vous dire le vrai, que le président de la République parle de manipulation. La seule manipulation que je connaisse, moi, jusqu'à maintenant, c'est l'occultation. Mais on fait suffisamment de procès aux politiques. On a suffisamment fait le procès de l'extrême droite, notamment, pour ne pas se plaindre lorsque la droite, notamment, se saisit d'un dossier. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Non, je pense que là, on ne peut pas reprocher au personnel politique. Je crois aussi que le président de la République lui-même a tenté d'appeler par le biais d'un membre de son cabinet une partie de la famille. Moi, je ne fais pas de procès aux politiques dans cette histoire-là. Les politiques ont été mis dans le vent. Et notamment, la pro a raison, par, encore une fois, une apathie policière invraisemblable et le silence médiatique que nous connaissons tellement en ce qui concerne notamment les Juifs français.
Et Radio Shalom, qui est évidemment totalement indépendant, a permis de briser ce silence. Vous avez vous-même fait le lien avec Éric Zemmour. Peut-être on va d'abord déjà demander à Shana ce qu'elle sait. Et après, je vous demanderai à vous votre point de vue sur l'impression qui s'en dégage. Shana, qu'est-ce que vous savez sur l'histoire de Zemmour ? Parce qu'on a entendu plein de choses. Donc d'abord déjà, c'est directement le père, c'est M. Cohen qui a dit « Oui, j'ai joint M. » D'ailleurs, on l'a passé dans le journal. Il dit « Oui, moi j'ai joint Éric Zemmour ». Il a appelé ça un vide juridique. Je ne sais pas s'il y a un vide juridique. Mais il a dit « Voilà, on était dans le... » Moi, j'ai plutôt, à sa place, j'aurais peut-être dit « On était totalement dans le noir ». Et je suis allé voir.
Ça.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a appelé peut-être d'autres personnes, mais Éric Zemmour a effectivement répondu, et je peux même vous dire plus, cet homme est dans un désarroi le plus total. S'il avait pu appeler qui de droit au-dessus d'Éric Zemmour, il aurait appelé. Éric Zemmour a tweeté, a répondu, effectivement, ça fait un buzz. Mais il avait besoin de parler, cet homme, et c'est normal.
Alors, William Gonadel, je vais vous dire ce que m'ont dit des enseignantes ce matin d'une école juive de l'Ouest parisien. Alors, c'est des dames, elles sont insoupçonnable de la moindre faute d'empathie pour la famille pour Monsieur Cohen. C'est impossible. C'est vraiment, on appelle ça des morottes en hébreu. C'est des morottes de l'école, c'est assez indiscutable. Elles m'ont dit, Monsieur Abouaf, dites-moi, c'est une manipulation, parce que quand on nous dit il y a Zemmour, alors ça veut dire qu'il y a un camp dans l'histoire. S'il y a un camp qui s'est occupé de ça, il faut nous le dire. Si ça a été fait avec un candidat à la présidentielle, c'est plus pareil, elles disent. On a besoin de savoir. On veut savoir parce que...
Qu'on soit clair, Monsieur Cohen a pris l'initiative dont il était parfaitement libre de contacter Éric Zemmour. Jusqu'à présent, les principaux problèmes que j'ai eus avec Éric Zemmour, que je connais depuis 40 ans, c'est justement de lui reprocher souvent son manque de pathos et notamment une sorte de cécité par rapport à la souffrance juive. Vous vous souvenez de l'histoire des malheureux qui ont été enterrés en Israël. Enfin, j'ai eu une polémique amicale mais publique avec lui. Alors maintenant qu'il se saisit d'un problème de souffrance juive, on l'accuse de manipulation. Ça n'a aucun sens. Monsieur Cohen a décidé d'appeler Monsieur Zemmour. Il aurait pu appeler qui que ce soit, c'est dans sa liberté. Mais de faire un procès dans cette histoire de manipulation à Éric Zemmour, alors qu'on passe son temps à expliquer au contraire qu'il est totalement imperméable à la souffrance juive, je trouve ça un peu excessif. Hein.
Non, mais je pense que les gens veulent surtout savoir si, par exemple, lui, il est à l'origine du coup de fil. Par exemple, ça, c'est... Si c'est,
ah,
c'est lui,
pas, non, mais,
voilà.
Non, mais écoutez,
ça, c'est parce qu'une manipulation, il faut que le gars manipule. S'il reçoit un coup de fil, il reçoit un coup de fil.
Non, mais il me semble que Monsieur Cohen s'est exprimé sur le sujet. Il a dit qu'il a contacté Éric Zemmour. Ah, maintenant, je sais plus qui a fait ça.
Chana, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, il l'a contacté, effectivement. Mais on est en train de s'égarer. Là, on parle de la mort d'un jeune homme juif qui a été maltraité, battu, on lui a tapé sur la tête, il a des coups de pied sur la tête, il n'avait pas le choix que de traverser ou il se faisait encore massacrer. Il faut parler de ça. Zemmour ou pas Zemmour, je sais que vous êtes en train de tout mêler la politique au milieu. Il faut parler de la souffrance de cette famille. Il faut demander pourquoi depuis le départ, j'ai accompagné dès le premier jour la famille et je suis au milieu. Pourquoi la police n'a pas bougé? Ça, c'est des questions importantes.
Alors, Chana, à faute d'avoir perdu un peu la raison, je crois qu'on a posé ces questions, y compris
je
ce
sais.
Soir.
Non.
Et qu'on
sais,
a été même,
sais.
Que nous, pour le coup, on n'a pas attendu. Dès qu'on a su, dès que vous nous avez appelé, on l'a fait. Mais parmi les questions, il y a Zemmour. Alors, mais ça fait partie des questions. Je vous dis, ça fait partie des questions d'enseignants dans des écoles juives. Elles veulent savoir. Mais c'est Zemmour qui a fait. Elles ont le droit de savoir. Maître Golnadej, je vous posais une dernière question. On fait très souvent le lien avec l'affaire Sarah Halimi. Par exemple, le Figaro l'a fait ce matin. Ils disent, est-ce qu'on est vers une nouvelle affaire Sarah Halimi? Est-ce que c'est, on va dire, au moins votre intuition, puisque vous découvrez le dossier?
Non, très sincèrement, Bernard, je n'ai aucune intuition. Je vous parle au premier degré. Je ne privilégie rien. Je n'exclus rien. Il est tout à fait possible que ça soit un énième crime antisémite, et c'est tout à fait possible aussi que, encore une fois, ça soit une énième victime des racailles. Nous ne savons pas, j'espère qu'on saura un jour, mais au moment où je vous parle, très sincèrement, je me garde de toute hypothèse hardie, je n'en sais rien. Voilà.
En même temps, les deux sont graves. Hein. C'est pas, s'il n'est pas juif, c'est bien, tout aussi grave.
C'est précisément ce que je dis. C'est déjà d'une telle méchanceté, c'est déjà d'une telle cruauté qu'un pauvre môme handicapé soit moqué, soit battu, soit frappé et que dans son désespoir il se jette sous les. Je veux dire, ça suffit déjà amplement à notre tristesse. Mais si, en plus, il y a la dimension antisémite, il y aura la dimension antisémite. Voilà.
Ouais, c'est les textes de loi qui sont comme ça, on appelle ça circonstances aggravantes. Achala, oui. Est-ce que vous voulez ajouter juste un mot pour...
Alors effectivement, je voudrais ajouter, je me fais porte-parole de la famille. La famille dit, j'ai confiance en la justice, j'ai confiance aux juges d'instruction, je sais qu'on va être accompagné, et les avocats aussi. Voilà. Et encore, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils sont là. Ils attendent, ils ont simplement besoin qu'on les aide. Tout simplement.
Parfait. S'il y a d'autres vidéos, s'il y a des gens qui sont en banlieue, s'il y a des gens qui sont susceptibles d'avoir des informations, vous savez que vous pouvez appeler la radio. 01 43 36 04 06. C'est aussi le rôle d'une radio juive de récolter ce type d'informations. Si vous avez ça autour de vous, vous n'hésitez pas, vous appelez le standard de la radio, il y a quelqu'un qui vous répondra. On n'est pas sur 4 étages et vous, l'information circulera. Nous, n'hésitez surtout pas à le faire. Maître William Golanel, je vous remercie.
Je vous en prie, Bernard.
D'avoir été notre invité. Et Shana Bismuth, la présidente de l'association Paul Meurer, qui est la porte-parole de la famille dans cette affaire. Merci à vous aussi, Shana.
Merci, Bernard. Merci, Maître.
Bon.
Au revoir, madame. À bientôt.
Bonsoir à tous.
Au revoir, Maître.
Au revoir. Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Vous retrouvez dans un instant le journal de Pierre Gandus.